Oktober installiert. Und ich gehe jetzt dieses Wort in Jean-Dominique. Jean-Dominique ist ehemaliger Journalist, oder immer noch Journalist. Journalist bei Priester, das ist noch nichts, sogar wenn man Priester spricht. Man hat uns gekannt, wo er noch im Elsassien ist, wo wir Alsacien. Nora hat er sich im Komplex vom Credit Mutuel habe ich sie verloren, aber ich vom Credit Mutuel und dann auch hat er Transferkassierung im Elsass betrieben, erkennt also die ganze Problematik, die der Presse gehört und hat uns bis jetzt erzählt, über Presse im Elsass. Das ist das Wort.
Merci vielmals. Der Jean-Marie hat gesagt, ich soll es als Echter haben, aber sonst aus. So wichtig ist auch, ob ich das nicht vorführe, aber es ist mir bequemer in Französisch. Da war ich heute auf Französisch, weil es trotzdem wichtig ist. Aber um den, also bonjour in alle zuerst, merci, dass ihr gekommen sind. Und um den Tisch sind ein paar Personen, die so gut so gut kennen wie ich. Und ich möchte, wenn ihr es erlaubt, besonders begrüßen, Madame René Wischer, die ihre ganze Karriere auf der Alsass gemacht hat. Und wo unter anderem das Büro von Schlossbrücke leitet, Landjürgen, und andere Kollegen, der Michel Martin, wie auch ein Kollege der Rennisch von der Alsace in Schlossbrücke, wo ich noch hört, auf die Universität gegangen ist und die jetzt die so enseigniert.
Ich habe jetzt nicht mehr Wasser
tun. Nein, merci, es geht.
Aber da.
Ich war wieder schon französisch in den letzten Jahren. Mein Sujet principal, c'est pour l'essentiel la presse régionale écrite. Et donc, je ne parlerai pas beaucoup, pratiquement pas, on va en parler tout à l'heure si vous discutez, de la presse audiovisuelle. Et là, je parle essentiellement de la presse écrite parce que c'est le sujet que je connais le moins mal et parce qu'elle se trouve actuellement à tournant. Et vous savez qu'en particulier ici, dans cette région, mais aussi pour la Lorraine, le Crédit Mutuel, qui est une banque qu'on ne présente pas, s'apprête à devenir l'actionnaire majoritaire de 10 quotidiens régionaux, 8.
Ebra, le groupe Ebra.
Voilà, le groupe Ebra, de 10 quotidiens régionaux qui s'ajoutent aux deux qu'il possède déjà depuis longtemps, donc la ZACH. Nous avons travaillé Mme Wechter et M. Mathien et qu'il a acquis en 1971 et plus récemment, dans la foulée des bras d'ailleurs, le républicain Lorrain. Et ça s'est passé dans les années 2006 et 2007. Qu'il a annoncé qu'il allait revendre, mais qui, à ma connaissance, oui, ça c'est un autre sujet, on peut en parler tout à l'heure, c'est lié sans doute à la personnalité de l'actuel président du Crédit Mutuel, donc de M. Michel Lucas. Et donc, ce qui fait que le Crédit Mutuel contrôlerait 10 titres, 10 quotidiens, qui couvre pratiquement tout le nord-est de la France, de la Moselle au Rhône. Alors, les questions auxquelles moi je vais essayer de répondre, c'est comment on a pu en arriver à un tel degré de concentration de la presse régionale. On peut se poser la question aussi, même si c'est assez difficile d'y répondre, on verra pourquoi le Crédit Mutuel s'intéresse à la presse régionale, quelle est sa stratégie. Et quels sont les scénarios possibles pour l'avenir de ces journaux régionaux sous le contrôle du Crédit Mutuel. Alors c'est un exercice, répondre à ces questions, c'est un exercice assez difficile pour au moins deux raisons. Parce que si le Crédit Mutuel est devenu un des tout premiers, sinon le premier éditeur de la presse régionale en France, on pourrait penser que c'est devenu également un grand communicant. mais paradoxalement, il n'a livré à aucun moment jusqu'à ce jour les vraies raisons qui le motivent à investir dans ce secteur qu'on sait à la fois en difficulté et très peu rentable. La seconde raison, c'est que le Crédit Mutuel a fait la demande pour prendre le contrôle de ces journaux. Il doit obtenir une autorisation préalable d'une administration qu'on appelle la DGCCRF, donc c'est assez compliqué, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et cette demande a été officiellement sollicitée seulement au début de 2011, et donc on attend la réponse dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors je le disais, le Crédit Mutuel a un pied dans la presse régionale depuis le début des années 70, quand il a acquis l'Alsace. Alors tout le monde connaît l'Alsace, on pourrait dire que c'est les dernières nouvelles du Haut-Rhin. Donc l'Alsace, c'est le siège se trouve évidemment à Mulhouse, mais sa zone d'influence s'étend dans le Bas-Rhin jusqu'autour de Célestat Erstein, avec un bureau effectivement à Strasbourg que Mme Steinmetz a longtemps, que Mme Bechter, pardon, que Mme René Bechter a longtemps dirigé. Quand le Crédit Mutuel, c'est assez drôle, parce que quand le Crédit Mutuel a racheté l'Alsace, il s'agissait à l'époque, disait-il, de défendre un élément du patrimoine régional, et la seule offre qui était alors sur la table émanait de l'Est républicain. Donc vous voyez, la région était plus petite à l'époque manifestement qu'aujourd'hui. En tout cas, les temps ont bien changé, parce que c'est allié au groupe Est républicain et Dernières Nouvelles d'Alsace qu'en 2006, le Crédit Mutuel a mis la main sur une partie de l'héritage de Robert Vincent, puisque les journaux dont on parle, la limite, faisaient partie de la galaxie qui appartenait à Robert Hersant. Et donc une nouvelle société, ça nous étions alors en 2006, et donc une nouvelle société a été créée qui s'appelle EBRA. EBRA pour Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Ouais. Et donc c'est un secteur qui couvre 23 départements. Et à l'époque, ça représentait une diffusion d'environ 1,3 million d'exemplaires pour un nombre de lecteurs estimé à plus du double, autour de 3 millions de lecteurs. Alors je vais quand même vous rappeler les titres dont il s'agit. Donc sont les 8 titres qui sont dans EBRA sont les Dernières Nouvelles d'Alsace, le siège est à Strasbourg, L'Est républicain à Nancy, Vosges Matin à Épinal, Vosges Matin étant le journal qui a été créé par la fusion de l'Est républicain et de la Liberté de l'Est. On y reviendra après pour voir justement pourquoi ils ont créé un nouveau journal et pourquoi ils lui ont donné un autre nom, puisque c'est un scénario qui est possible d'imaginer ici pour ce qui concerne l'Alsace et les Dernières Nouvelles. Donc se trouve par ailleurs dans ce groupe aussi le journal de la Haute-Marne, qui lui est basé à Chaumont, le Bien Public à Dijon, le journal de Saône-et-Loire à Mâcon, le Dauphiné Libéré à Grenoble, et pour finir le Progrès à Lyon. Donc voilà les 8 titres de presse quotidienne qui sont dans les bras. À quoi s'ajoute, concernant le Crédit Mutuel et jusqu'à ce jour, l'Alsace, qui lui appartient, je le disais, depuis 1971, et depuis 2006, le Républicain Lorrain, dont M. Lucas a annoncé récemment qu'il le remettait en vente. Alors ici, on a parlé jusqu'à présent de presse quotidienne. En réalité, dans cette orbite EBRA, gravitent aussi des hebdomadaires, gravitent aussi des gratuits, des maisons d'édition de livres et des télévisions, et pour finir aussi des agences de publicité. En 2006, l'entrée du Crédit Mutuel dans EBRA s'est effectuée dans une relative discrétion et totale indifférence de la part du grand public. Je ne parle pas des syndicats de journalistes qui ont pris alors position en craignant justement l'excès de concentration des journaux. Mais le grand public, je pense, ne l'a pas capté à l'époque, et en tout cas n'en a pas mesuré les enjeux, à supposer qu'il le fait dans l'intervalle. Il est vrai aussi que le Crédit Mutuel avait choisi de ne pas entrer en force, et qu'il s'était contenté dans le partage du capital de 49-51%, 51% pour les titres autour des Républicains, 49% pour le Crédit Mutuel, mais il était entendu déjà à l'époque que ce rapport devait s'inverser, que c'est bien le Crédit Mutuel qui devait devenir le leader dans cette opération. Ça devait se faire initialement dans les 2 ans, donc ça aurait dû être bouclé en 2008. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une bataille juridique sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que c'est un peu compliqué. Il faut simplement savoir qu'il y a un fils de Hersant qui est lui-même dans la presse avec France Anti et l'Union de Reims notamment, qui avait conclu un pacte d'actionnaires avec l'Est républicain au terme duquel il ne pouvait pas être spolié de la manière dont il l'a été. Et il y a eu plusieurs épisodes judiciaires sur lesquels que le Crédit Mutuel d'ailleurs a perdu, et c'est ce qui fait que la prise de majorité du Crédit Mutuel, qui n'avait peut-être pas été voulue dans l'immédiat, ne peut intervenir en réalité qu'en ce moment, puisqu'ils ont trouvé un accord avec le fils Hersant, qui lui-même est en difficulté avec ses titres et qui avait besoin d'argent. Tout ça n'a pas empêché d'engager un certain nombre de réformes, et en particulier, ils ont commencé à mutualiser, c'est le terme, à mutualiser les moyens à la fois techniques et humains. Et ça c'est encore, je pense que c'est la partie la plus soft. Je pense que le plus dur est à venir, et donc le Crédit Mutuel avance toujours le même type d'argumentation de défense du patrimoine régional concernant Ebra ou l'héritage de Robert Hersant, le père. Il y aurait eu des fonds de pension qui étaient candidats au rachat, des fonds de pension anglais et espagnol, et ce que dit le Crédit Mutuel, c'est que pour éviter que les centres de décision ne quittent Strasbourg, Nancy, Metz, pour aller vers Madrid ou vers Londres, le Crédit Mutuel, qui est actif, fortement actif, très bien implanté sur ce secteur, est intervenu financièrement pour que ces centres de décision et les emplois qui vont avec ne soient pas perdus. Bon, ça c'est la version officielle, chacun est libre de la croire. Personnellement, moi je ne la crois pas. Je ne fais pas crédit au Crédit Mutuel de ce point de vue-là. Je pense que ici, le Crédit Mutuel il a été fortement encouragé par les pouvoirs publics, qui effectivement, eux, n'avaient pas intérêt à ce que des centres de décision partent. Et à l'époque, il y avait notamment un monsieur qui pensait à la présidentielle quand il se rasait le matin, auquel ce genre de problématique ne devait pas être totalement indifférente. En tout cas, bon, il est sûr aussi que quand on a cherché dans notre beau pays qui était déjà engagé dans la presse et qui possédait des capitaux, c'est sûr qu'ils n'ont sans doute pas trouvé grand monde en dehors du Crédit Mutuel, mais c'est totalement incohérent par rapport aux discours qui sont tenus au Wacken, y compris par l'artisan de l'ensemble de ces investissements, qui ne parle que d'économie, de fonds propres, qui ne parle que de recentrage sur les métiers. Donc les métiers du Crédit Mutuel, c'est certainement pas la presse, c'est évidemment la banque, c'est l'assurance, et ce qu'on sait moins, ils sont extrêmement puissants dans le secteur informatique. D'ailleurs, ils se sont défaussés dans le même temps de beaucoup d'entreprises, je cite en particulier parce que c'est assez emblématique, ils étaient les propriétaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, des chutes fruits Réa, qui sont basés à Sa Réunion. À l'époque, Réa était le numéro un des jus de fruits en France, et ils se sont défaussés de ça au motif que ce n'était pas leur métier. Donc la presse, ce n'est pas davantage leur métier, mais ils sont allés quand même. Alors, faute d'explications officielles crédibles, on en est bien réduit aux hypothèses. On aurait plutôt pensé, c'est ce qui se disait, je pense, sous le contrôle d'un certain nombre de collègues. J'ai oublié de saluer aussi Jean-Georges Heinz, qui est le mari de Jacqueline Pérez, qui a fait sa carrière au dernier duel, qui nous a malheureusement quitté en juin dernier, qui connaît bien la situation également. Donc on pouvait penser que le Crédit Mutuel n'avait pas lieu de s'y intéresser, puisque il n'a pas eu que des, notamment sur le plan financier, il n'a pas eu que du bonheur avec l'Alsace. Je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est assez significatif de la situation de la presse régionale, d'ailleurs pas seulement de la presse écrite régionale, c'est le cas aussi des hebdomadaires, c'est le cas aussi dans une certaine mesure de la presse nationale. L'Alsace, dirigée par le Crédit Mutuel, donc par des gens compétents en matière de gestion, du moins on peut le penser, a perdu entre 2001 et 2009 20 millions d'euros, ce qui est quand même une somme assez considérable. Et il a fallu, l'actionnaire, donc le Crédit Mutuel, a dû recapitaliser l'Alsace à hauteur de, en deux fois, pendant cette période, à hauteur de 15 millions d'euros. Les DN, ça va à peine mieux. J'ai vérifié les chiffres aussi. Alors en 2009, dernier chiffre connu, puisque ceux de l'exercice 2010 ne sont pas encore connus, la situation a été bénéficiaire, d'ailleurs assez fortement, pour des journaux, 4,2 millions, mais ce bénéfice ne compense pas les pertes des deux exercices précédents, donc 2008 et 2007, où le déficit cumulé pour l'EDN c'était monté à 8 millions d'euros. Donc vous voyez quand même que la situation les bilans des journaux, bon, c'est vrai aussi du Républicain Lorrain, quand le Crédit Mutuel l'a repris, il était quasiment au bord du dépôt de bilan. Tout ça s'est fait malgré des plans de restructuration. Par exemple, à l'Alsace, sur la période que j'évoquais, 2001-2009, ils ont perdu près de 150 postes de travail. L'Alsace salarie encore 415 personnes, dont 140 journalistes. ODN, il y a encore près de 800 salariés, dont 190 journalistes. Alors les raisons de la dégradation des bilans sont simples à comprendre, et je pense que vous les connaissez. Les journaux vivent essentiellement de deux types de ressources. D'une part, les abonnements et la vente des journaux au numéro, et d'autre part, la publicité. Tous ces journaux, quels qu'ils soient, font face depuis des années à des pertes d'abonnements, de lectorat de l'ordre de 2 à 3%. Quant à la publicité, hein, j'insiste pas, vous savez comme moi que les années de crise que nous avons traversées, que nous traversons encore, ne sont pas favorables à l'investissement publicitaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu dans l'intervalle de nouveaux médias qui sont apparus et qui ont évidemment drainé tous ces volumes de publicité. Il y a eu les radios, les télévisions régionales qui n'existaient pas avant, et il y a aussi eu, et de plus en plus, Internet et gratuit. Et la presse gratuite, bien entendu, qu'un certain nombre de ces maisons éditent aussi. J'ai regardé des chiffres de tirage pour vous donner quand même pour vous situer l'importance de la baisse du lectorat. En 91, elle était attirée encore à 240 000 exemplaires. En février dernier, ils étaient à 190 000, donc ils sont passés sous la barre des 200 000 exemplaires. J'ai les chiffres de l'Alsace qui représentait, qui diffusait à 140 000 exemplaires en 1983 et qui se situe aujourd'hui à 113 000 exemplaires. Bon, la désaffection à l'égard de la presse écrite, elle ne date pas d'aujourd'hui. En 1908, on comptait en Alsace 27 quotidiens. 27 quotidiens, 2008. Il y en avait encore 14 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y en avait 3 jusqu'à la disparition du Nouvel Alsacien en 1986. Et bon, les quotidiens, c'était une chose, mais il faut citer qu'il y avait de très nombreuses autres publications périodiques dans de très nombreux domaines. Il y avait une presse syndicale qui était très active, il y avait une presse confessionnelle, une presse professionnelle, une presse associative. Encore des chiffres qui situent ça. En 1946, toute forme de presse confondue, il y avait 59 titres en Alsace. Donc en 1946, lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 59 titres. Aujourd'hui, on n'arrive plus à en compter 10 quand on met tout ensemble, y compris la presse professionnelle. On n'arrive plus à 10 titres.
Et on a une idée du tirage global quand il y avait 59 titres.
Alors, je pourrais peut-être vous le retrouver, si ça vous intéresse, dans un bouquin qui a servi de base, là, de Claude Lorenz, qui a été publié par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, mais je ne le sais pas. Bon, on est ici au Schicklerkreis, donc on ne peut pas évoquer une des singularités de cette presse qui est toujours bilingue. Alors il s'agit évidemment d'un bilinguisme tout à fait relatif, puisque au lendemain de la guerre, les pouvoirs publics avaient imposé que une partie, 25%, c'est-à-dire le quart, soit obligatoirement rédigé en français. Et donc, non, mais il y avait 25% dont les articles destinés à la jeunesse et notamment les pages sportives, puisque c'est les jeunes qui considèrent que les jeunes les lisent par priorité. Donc ça s'agissait de. C'est assez amusant, enfin amusant c'est une façon de parler, ça devait être un dispositif à titre provisoire, et alors bon, ça c'est typiquement français, hein, puisque comme vous le savez, il n'y a que le provisoire qui dure, et donc ce dispositif n'a été un projet qu'en 1984. Donc c'est effectivement du provisoire qui a... Bon, il pouvait tranquillement l'abroger en 1984, puisque le mal était largement fait. Hein. J'ai vérifié aussi les chiffres au lendemain de la guerre, les éditions bilingues étaient largement majoritaires. Donc il y avait 83% par exemple des DNA qui étaient l'édition bilingue. Et ce rapport est tombé aujourd'hui, pour ce qui concerne les DN, à 7%. C'est-à-dire qu'il y a encore 13 000 exemplaires sur 190 000 qui sont en édition bilingue. Et pour ce qui concerne l'Alsace, il s'agit de 5% pour l'édition bilingue, soit 6 000 exemplaires sur un total de 113 000. Dans les causes de la désaffection du public, ça vous savez, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, vous avez pu remarquer que les jeunes générations ne lisent plus de journaux régionaux, en tout cas, très peu. Bon, bah, c'est vrai que le temps n'est plus où le journal considérait quasi le journal représentait pratiquement le seul moyen d'information, on l'a déjà dit tout à l'heure, subit la concurrence de l'audiovisuel, télévision, radio, internet, téléphonie. Et l'an passé, pour la première fois aux États-Unis, le nombre de lecteurs de la presse en ligne et les revenus publicitaires sur internet ont dépassé ceux de la presse écrite. Et donc, si ça s'est passé l'année dernière aux États-Unis, on peut prendre le pari que ça va se passer, que ça va s'inverser également bientôt chez nous. Alors, quel est l'avenir possible dans ces conditions difficiles pour cette presse régionale? Bon, il est évident que la possibilité pour le Crédit Mutuel de pouvoir agir sur 10 quotidiens lui permet effectivement de faire des synergies et des économies d'échelle dans tous les domaines, que ce soit l'impression, la distribution, la rédaction, le marketing, la gestion des abonnements, la gestion de la publicité. Et je pense que pour ces aspects-là, on peut faire totale confiance au Crédit Mutuel. Et ces aspects-là sont en quelque sorte des aspects industriels. Ça, c'est sûr qu'ils savent faire ça. Ils l'ont déjà montré dans le passé, dans le secteur bancaire, évidemment, et dans le secteur des assurances. Toute la question est de savoir si on peut considérer l'information comme une marchandise, comme les autres. En attendant, il utilise ce qu'il a fait dans la banque et dans les assurances, il utilise l'outil informatique. On sait assez peu que le Crédit Mutuel est extrêmement puissant dans le secteur informatique, notamment une filiale qui s'appelle Euro Information, qui est une entreprise de niveau, à la fois en termes de savoir-faire et de qualité et de nombre de collaborateurs. Ce sont des entreprises de niveau européen qui dépassent largement le plan strictement national. J'ai pas besoin d'y insister. Vous doutez bien que le pluralisme, que la diversité ne peut pas être le gagnant de telle structuration. C'est absolument évident, c'est pas la peine d'y insister, que concentration et diversité sont totalement antinomiques sont totalement antinomiques. Et encore, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si encore une fois, on est dans le domaine des hypothèses, c'est de se demander si le Crédit Mutuel va se contenter de cette mutualisation des moyens ou s'il va passer une étape supplémentaire. Alors, il y a des précédents, y compris dans la région. Et il y en a eu un déjà qui est bien connu à Marseille, et l'autre était dans le concert du département des Vosges. Donc à Marseille, il y avait à l'époque 3 quotidiens, maintenant il n'y en a plus que 2. Il y avait celui de Gaston Defer, qui s'appelait le... Non, la Marseillaise, c'était le Covidiste.
C'était le Covidiste, mais ça existe encore.
Oui, ça existe encore, mais La Marseillaise, c'était le troisième, donc c'était celui qui était communiste. Il y avait le Provençal, qui était la propriété de Gaston Defer, donc qui était plutôt à gauche, le Méridional, qui était plutôt à droite, et la Marseillaise, et puis un beau jour, le Provençal et le Méridional ont été fusionnés, et le Méridional et le Provençal ont décidé de créer un nouveau journal qui s'appelle La Provence. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'un seul titre, qui s'appelle « Vous soyez de droite ou de gauche, de nulle part ». Vous n'avez plus le choix de lire un autre journal que la Provence. Donc, ça, plus près de nous, c'est dans le département des Vosges, qui est un où il y avait à l'époque la Liberté de l'Est et l'Est républicain. Un beau jour, l'Est républicain a mangé la Liberté de l'Est, Et donc on aurait pu penser que les deux journaux vont rester, que même s'ils ont des pages communes, ils ont un traitement des pages locales qui aurait pu rester différencié. Et ben, ils ont fait en réalité la même chose que le... ils ont fait en réalité la même chose qu'à Marseille. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour créer un nouveau titre, qui s'appelle en l'occurrence Vosges Matin. Et donc, soit vous lisez Vosges Matin, soit vous ne lisez rien, on ne peut pas véritablement dire que c'est un progrès pour, d'une façon générale, pour la circulation des idées, pour la liberté d'opinion, et plus largement pour la démocratie, c'est certainement pas un progrès. La question qui se pose est de savoir si DNA et Alsace vont faire la même chose. Et la région d'Alsace emblématique où la question pourrait se poser, et il pourrait faire des économies très supérieures à tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, et notamment la mutualisation des moyens, c'est la région colmarienne. Là, ils sont à peu près à parts égales entre les DNA et l'Alsace. Colmar est une ville d'à peu près 65 000 habitants. On admet en général que s'il n'y avait qu'un journal, une équipe d'une quinzaine de journalistes pourrait très bien gérer ça. Or, actuellement, les deux équipes des DNA et de l'Alsace sont pas loin d'une cinquantaine. Donc on voit bien que si on fusionnait les deux journaux pour en faire un seul, pour l'appeler, je ne sais pas moi, Alsace Matin, ou les dernières nouvelles d'Alsace, les dernières nouvelles de l'Alsace, même si c'est un peu long, mais pour qu'il y ait les deux dedans. On voit bien pour l'investisseur quel pourrait être le gain. Donc ça c'est c'est évidemment une hypothèse.
Ou la réduction de perte.
Oui, la réduction de perte. C'est une hypothèse aujourd'hui, et donc il ferait ça, comme ça il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu. Et bien évidemment le lecteur ou le consommateur de journaux elle ne serait pas gagnant non plus dans une telle hypothèse. Donc je vais maintenant en clôture. Malheureusement sur une note un peu pessimiste. Hein, donc on peut craindre, en tout cas, j'espère que ça ne va pas arriver, mais on peut demander aussi l'avis de nos collègues. On peut craindre que progressivement on tende vers une situation de monopole qui va atteindre également la presse régionale, la presse quotidienne régionale. Il faut savoir que c'est la situation qui existe déjà dans la plupart des régions françaises, et que de ce point de vue-là, l'Alsace, si ça arrivait, ne ferait que se banaliser